Nous recevons toujours Jules Cyr dans les studios de Divergence. Vous présidez l'association Rebond, dont on va continuer de parler tout de suite dans cette seconde partie d'interview où on va plus aborder la signature récente d'une convention de mécénat que vous avez signée avec la Fondation Groupe EDF pour soutenir le projet Essai au féminin. Qu'est-ce que c'est ce projet Essai au féminin qui date, vous l'avez dit tout à l'heure, de 2009, il me semble.
Exactement, 2009. Je me permets une toute petite rectification. Je suis le directeur de l'association Rebond et pas le président. Le président, c'est Monsieur Malher, que je salue, j'en profite. Et donc, pour revenir à l'essai au féminin, effectivement, 2009, on déploie depuis 5 ans ce que j'ai présenté avant, ça veut dire du travail dans les écoles, un accompagnement vers le club, un accompagnement social autour de ça. Et on s'aperçoit en 2009 que sur les 50 jeunes qu'on accompagne en club, à l'époque, il y a une jeune fille. Donc, on est sur des espaces temps scolaire prioritairement en mixité, où il y a autant de filles et de garçons qui jouent au rugby. Par contre, quand il s'agit d'aller en club, eh bien, on n'arrive pas à amener les jeunes filles en club. Pas qu'elles aient moins de qualité dans la pratique du rugby, mais on s'aperçoit qu'il y a des freins supplémentaires, qu'à ce moment-là, en 2009, on a du mal à lever alors qu'on y arrive pour les petits garçons. Le premier, c'est qu'à niveau égal, à la fin d'un cycle de 6 séances au rugby, si on demande qui c'est qui a envie de continuer en club, on va avoir 10 petits garçons qui vont lever la main, on aura sûrement 0 petite fille. Donc elle-même s'auto-censure par rapport à une possibilité d'aller plus loin dans la pratique. Même avec des jeunes filles qui ont des compétences hors du commun, au-dessus de la moyenne, on voit cette auto-censure. Quand on arrive à les convaincre avec l'éducateur socio-sportif, l'enseignant, on a une autre barrière qui est celle de la famille, où là, effectivement, l'image du rugby à l'époque est quand même très masculin. Et donc, on a beaucoup plus de refus de la part de la famille quand c'est des petites filles que quand c'est des petits garçons. On a aussi cette dimension où on accompagne les jeunes en club. Donc, on prend les jeunes dans la voiture et on va les amener en club. Donc, on a aussi des familles qui ont plus de mal à nous laisser leurs filles que leurs garçons. Et quand on arrive en club, à l'époque, 2009, on est aussi sur des clubs de rugby où il y a très peu de jeunes filles. Et les jeunes filles, s'il y en a une par école de rugby, c'est maximum. Elles ne sont pas représentées à cet endroit-là. Elles ne sont pas non plus représentées parmi les éducateurs ou éducatrices, mais c'est souvent des éducateurs. Et il y a une question aussi toute bête, mais qui est celle des vestiaires et de la place. Parce que tant qu'il n'y a pas de jeunes filles, il n'y a pas besoin de vestiaires pour les jeunes filles. Par contre, quand il y a une jeune fille qui arrive, on a les deux mauvaises solutions, ce que j'appelle. Soit on met tous les garçons dans un même vestiaire, donc ils avaient deux vestiaires, ils n'en ont plus qu'un. Ils ne sont pas contents. Soit on met la jeune fille ailleurs, mais dans un espace qui n'est pas adapté. Donc on s'aperçoit que même quand on les amène en club, souvent elles décrochent parce qu'elles ne se sentent pas à leur place et pour d'excellentes raisons. Donc nous, on essaye de prendre le problème avec ce diagnostic-là, hein, qui date de 2009, mais qui est toujours vrai, même s'il est à nuancer aujourd'hui. La première question qu'on se pose à l'époque, c'est nous qui on est. Nous qui on est 4, 5, 6 éducateurs socio-sportifs, uniquement des hommes qui faisons faire du rugby. Et donc déjà, dans la question un peu du rôle modèle, de comment les jeunes filles peuvent se dire « ouais, c'est chouette le rugby, mais ça me correspond », on a déjà un premier souci, c'est que nous, on est tous des hommes et que pour une jeune fille de 8 ans, on ne représente pas forcément quelque chose qui va les se dire « ça peut continuer ». Donc nous, déjà en interne, on féminise nos équipes sur ce poste d'éducatrice socio-sportive, ce qui va nous faciliter le travail. Ça va aussi nous faciliter le travail avec les familles, parce qu'effectivement, c'est elles qui vont plus facilement accepter de laisser leur fille à une femme, notamment sur la question des transports, où des fois, on se retrouve seul avec des enfants dans la voiture, dans le minibus. Et puis après, on va bosser avec les clubs sur comment accueillir, sur quel espace. Et en parallèle, on va travailler sur des dispositifs exclusivement féminins après l'école, sur du temps périscolaire, où toutes les jeunes filles qui ont aimé faire du rugby en temps scolaire, on leur propose de continuer sur le temps périscolaire. Plusieurs effets, plusieurs enjeux sur ce temps-là, que déjà les filles qui ont envie de continuer s'aperçoivent qu'il y a plein d'autres copines qui ont envie de continuer. Le deuxième, c'était de se dire, en fait, on va les amener à 3 ou à 4 ensuite en club, de copines, et que ce sera beaucoup plus facile. Ça réglera le problème des vestiaires, ça réglera le problème d'être seul, et donc on les amènera en groupe dans des catégories, ce qui fait qu'elles seront beaucoup plus à l'aise. Et le dernier, qu'on a découvert un peu sur le tard, mais qui était important aussi, c'était de montrer une pratique sportive au sein des quartiers prioritaires, féminine, en extérieur. ce qu'on voit finalement assez peu parce que c'est des espaces, les terrains de sport. À 16h30, on ne voit pas une femme dessus parce que ce n'est pas comme ça qu'ils sont occupés historiquement. Donc voilà comment on a monté le dispositif. Aujourd'hui, ces séances exclusivement féminines, c'est à peu près 750 jeunes filles qui participent en Occitanie. Et nous, on accompagne 267 jeunes en club. Et sur les 267, il y a 37% de jeunes filles. Une sur 50, un dispositif qui a 10 ans et qui aujourd'hui fait qu'on en a un gros tiers, si quand même dans la pratique du rugby, est très largement supérieur à ce qu'on a. Et après, la société a aussi évolué, la médiatisation du rugby féminin a aidé, les clubs sont aussi beaucoup plus en capacité d'accueillir, et puis plus il y a de jeunes filles, et plus c'est facile d'accueillir des jeunes filles. Donc on a tous ces enjeux-là qui ont bougé avec la société, et ça c'est très intéressant.
C'est un cercle vertueux en quelque sorte. Plus il y a de jeunes filles, plus les dispositifs sont adaptés pour elles, et plus ça va encourager de futurs jeunes à se lancer là-dedans.
Exactement, c'est un cercle vertueux et puis ça fait bouger aussi les fédérations parce que ça devient un enjeu. Donc on se pose la question des catégories. Nous, quand on a commencé en 2019, il y avait une mixité de pratiques jusqu'à 15 ans au rugby, ce qu'on ne connaît pas dans d'autres sports collectifs, alors que c'est sûrement le sport collectif où c'est le plus compliqué d'avoir une mixité jusqu'à 15 ans, jusqu'à 12-13 ans, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, la Fédé a construit des équipes de moins de 15 ans exclusivement féminines, ce qui permet d'avoir une transition plus simple. Et puis, il y a quelque chose qui est compris aussi. On sait que le point de bascule de l'arrêt de la pratique féminine fédérale, c'est souvent entre 13 et 16. Là, on avait des jeunes filles qui s'épanouissaient dans une pratique des fois qu'avec des garçons en école de rugby et qui arrivaient à 16 ans. On leur disait, il faut que tu changes de club parce qu'il faut que tu ailles jouer dans un club de filles, ce qui était normal, mais ce qui fait qu'en fait, pour elles, c'était un déracinement et une autre manière de se projeter dans leur pratique sportive. Donc ça, il y a aussi des transitions douces qui ont été travaillées, notamment par la fédération. Nous, on a pu essayer d'accompagner aussi ces jeunes filles. Et nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en plus, elles ont une capacité à tenir plus longtemps au sein du club et que c'est un espace d'émancipation très important pour elles parce qu'en dehors du quartier et qui les renvoie à un moment donné à leur rôle d'enfant là où c'est moins compliqué pour les petits garçons dans les quartiers dans lesquels on travaille.
Et alors cette convention de mécénat, qu'est-ce qu'elle implique concrètement? Vous allez avoir plus de moyens pour mettre plus d'actions en place? Qu'est-ce qui va se passer?
Concrètement, c'est une question de moyens dans un premier temps, et c'est toujours tout l'intérêt de l'accompagnement des fondations et de la philanthropie de manière générale. C'est que ça vient sécuriser des projets, sécuriser des professionnels qui mènent ces projets et pouvoir faire des effets leviers sur le volume. Et ensuite, c'est aussi l'accompagnement de la fondation. Comment d'un point de vue de l'expertise, comment d'un point de vue des fois du bénévolat, comment d'un point de vue d'un mentorat, on peut bénéficier des ressources de l'association, des ressources globalement, qui va nous permettre de manière un peu systémique de travailler avec l'ensemble de l'écosystème, à la fois pour améliorer notre pratique, mais aussi pour être un peu plus sécure et un peu plus, avec un peu plus de moyens pour mener les actions. Et travailler dans la continuité, ce qui est très important pour nous d'un point de vue à la fois du territoire et des publics.
Et alors vous avez d'autres projets qui vont sûrement arriver par la suite. Qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir de l'association Rebond ?
Ce qui est prévenu pour l'avenir, alors on est dans une phase aujourd'hui où on s'est beaucoup déployé pendant 10 ans territorialement. On est effectivement, comme je disais, sur 10 départements. Donc on a aujourd'hui comme enjeu numéro 1 de consolider ce qu'on fait sur les territoires et de déployer l'ensemble des dispositifs, à la fois éducation, insertion, dont les CO féminins, les dispositifs d'insertion professionnelle, pour avoir une complétude sur un territoire des dispositifs qu'on mène et avoir des parcours d'accompagnement qui soient le plus cohérents possible. On est toujours aussi dans une logique d'innovation territoriale autour de la question du sociosport pour savoir comment on peut la travailler à la fonction des publics, des territoires et des publics qui peuvent changer de problématique à certains moments. Et après, on travaille nous aussi au niveau national dans un consortium d'autres acteurs sociosportifs pour définir le métier, expliciter ce qu'on fait, le rendre visible. On est aussi dans une logique de mesure d'impact. On a fini le premier volet de notre mesure d'impact sur la partie enfance-jeunesse. Et là, on va travailler sur une deuxième volet de la mesure d'impact sur l'insertion professionnelle par le sport.
Très bien. Et on arrive malheureusement à la fin de cette interview. Merci d'être venu, Jules Cyr, au micro de Divergence. Vous êtes le directeur, cette fois je ne me trompe pas, de l'association Rebond. Merci.
Merci beaucoup pour l'invitation.